En votre compagnie, Alain Laurent, Valérie Charol. Alors, le point de départ de cette émission, l'objet de cette émission est d'établir une distinction qui, en tout cas, l'idée reçue veut que cette distinction ne soit pas évidente. En général, les deux termes sont identifiés. On va ici essayer de faire preuve de ce que Nietzsche appelle le sens de la nuance pour établir donc ce qui distingue et ce qui oppose éventuellement libéralisme et capitalisme. Valérie Charol, dans quelle mesure est-ce qu'on peut poser, en termes très précis, quelques principes qui opposent ces deux termes qu'on a tendance indûment à identifier?
Alors, dans le livre « Le libéralisme contre le capitalisme », moi, je suis partie d'une lecture d'Adam Smith, donc de « La richesse des nations », le théoricien un peu fondateur du libéralisme, que j'ai essayé de confronter à la réalité des pratiques économiques que nous avons aujourd'hui, et en particulier aux règles qui sédimentent nos pratiques économiques, à savoir les règles comptables que l'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il y a trois différences fondatrices qui peuvent permettre de montrer tout ce qui sépare le libéralisme des origines et le capitalisme que nous pratiquons, qui permettent donc de dénoncer la confusion entretenue dans le débat public entre ces deux termes. La première de ces contradictions entre libéralisme et capitalisme, je dirais la plus forte, c'est celle qui a trait à la valeur du travail. Pour Adam Smith, c'est tout le début de la richesse des nations, le travail est le fond primitif sur lequel se fonde la valeur de la richesse de toutes les nations. C'est le travail qui est le cœur du processus économique qui fait sa valeur.
Or, vous dites que le travail aujourd'hui n'a pas de valeur en lui-même, mais toujours par rapport à des règles comptables, donc au capital.
Oui, et aujourd'hui, dans nos règles comptables, qu'est-ce qui se passe? Le travail, c'est pas une valeur, c'est une charge. Tout le monde le sait. Et ce faisant, on ne reconnaît pas au travail cette capacité à créer de la valeur dans le processus économique. Et c'est ça qui me permet de dire qu'on est dans un système capitaliste, au sens où c'est le capital qui, dans nos règles comptables, permet de créer de la valeur, pas le travail. Alors, en contradiction avec le penseur libéral des origines qui est Adam Smith.
Selon qui le travail, donc, en lui-même est producteur de valeur. On va rester juste un instant sur cette première distinction, la distinction de la valeur travail. Alain Laurent, est-ce que vous souscrivez à cette distinction autour de la valeur travail entre libéralisme et capitalisme?
Non, je ne souscris même pas d'ailleurs à l'idée qu'il y ait une contradiction entre les deux. Il y a une distinction à faire, mais elle n'est pas celle à laquelle on pense habituellement. Pour être bref, le capitalisme, c'est a priori rien d'autre que ce qu'on appelle le libéralisme économique et que je préfère appeler le libéralisme en économie. C'est l'économie de libre marché, tout simplement. Alors, s'il y a une distinction à faire entre les deux, mais certainement pas une opposition, c'est que le capitalisme est quelque chose de moralement neutre, il n'est ni moral ni immoral. C'est quelque chose qui est analogue à l'agriculture, aux études de médecine, quelque chose donc qui est censé avoir une efficacité dans la production des richesses, alors que, assez différemment, le libéralisme implique une dimension éthique des valeurs, et c'est ça qui peut poser des problèmes pour les rapports entre les deux.
Il aura donc été dit à la fête de l'UMA au moins une fois que le capitalisme est moralement neutre, pourquoi pas. Mais on va continuer à discuter justement, mais je voudrais quand même, vous dites qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais est-ce que la question par exemple de l'accumulation des capitaux, une accumulation qui dans un système capitaliste peut être vécue comme liberticide justement, n'est pas là pour le coup un point d'accroche, une distinction essentielle à établir entre un libéralisme qui, soucieux de préserver la concurrence, d'une certaine manière, lutterait contre une stricte logique d'accumulation des capitaux, et un capitalisme qui, lui, à la limite, s'en fiche.
Les fondamentaux du capitalisme, c'est moins l'accumulation du capital que le fait de disposer de capital pour l'investir et en retirer du profit. Cette accumulation n'est pas un problème d'ailleurs, ce n'est pas du tout le problème dont on parle actuellement avec tout ce qui est de l'ordre de la spéculation boursière ou bien des folies financières. Personne ne met en cause actuellement, c'est pas de à l'ordre du jour, l'accumulation. La problématique actuelle du capitalisme se situe ailleurs. Par ailleurs, les monopoles, mais c'est le fait de l'État, c'est pas le fait du capitalisme. Si jamais il y a quelque chose qui tend vers le monopole dans la sphère du capitalisme, par le jeu de la concurrence, tôt ou tard, et en général très vite, on voit ça actuellement dans tout le domaine du numérique, de l'informatique, eh bien, il y a un concurrent qui vient. C'est pourquoi, d'ailleurs, les libéraux, plus que les capitalistes, ont insisté pour qu'il y ait une législation protégeant la concurrence si jamais il y a un blocage qui se passe de ce point de vue-là. Mais tous les monopoles sont de l'ordre de l'État.
Mais il y a Microsoft, par exemple.
Oui, bien entendu, mais il y a des concurrents qui se lèvent, et on voit, même au niveau d'ailleurs de la Commission européenne, on voit à quel point ça alarme le fait qu'il puisse y avoir une position monopolistique. Le fait, mais Microsoft n'a jamais empêché qui que ce soit de venir le concurrencer. Parce que là, on est dans des domaines technologiques extrêmement complexes, et il est vrai qu'il n'est pas facile qu'il y en ait d'autres. Mais prenez l'affaire des logiciels, on voit qu'il y a des concurrents, parfois gratuits d'ailleurs, qui sont en train d'émerger. C'est pas du tout ce qui se passe lorsque ce sont les États qui disposent d'un monopole ou qui favorisent certains de leurs amis capitalistes pour leur accorder des privilèges, des exemptions, etc.
L'augmentation du capital qui élève les salaires tend à réduire les profits. Quand nombre de négociants transfèrent leur capital dans la même branche d'activité, la concurrence qu'ils se font a naturellement tendance à réduire leurs profits. Et quand le capital augmente du même montant dans toutes les activités menées par la société, la concurrence doit entraîner les mêmes effets. C'est Adam Smith qui le dit, c'est vous qui le citez, Valéry Charol, dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Le libéralisme contre le capitalisme ». Alors, dans quelle mesure, Valéry Charol, la question de l'accumulation des capitaux permet d'établir cette distinction éventuelle entre libéralisme et capitalisme?
Je pense qu'il y a d'abord plusieurs lectures du terme libéralisme que l'on peut faire, selon qu'on se réfère à un auteur, Adam Smith, ou à tout un courant de pensée qui ne l'a pas forcément suivi dans tous ses aspects. Et ce qui est très clair, c'est que dans la pensée d'Adam Smith, et puis je pense au cœur de la pensée libérale en économie, que moi je ne confonds pas avec la pensée capitaliste en économie, il y a cette idée que la concurrence et le marché, l'économie de marché, ça sert à faire en sorte qu'il n'y ait pas de position dominante. Et on ne doit pas confondre position dominante et position de monopole, qu'il ne puisse pas y avoir une loi du plus fort. Et aujourd'hui, ce qu'organise le marché au travers du fonctionnement des marchés financiers et de la sphère boursière, c'est bien par les mécanismes de fusion-acquisition, la constitution de géants qui vont pouvoir avoir une position dominante. Et en cela, on a un fonctionnement du marché, moi j'appelle ça le capitalisme antilibéral, qui cherche toujours à se mettre en dehors du jeu de la concurrence et qui, du coup, arrive à se mettre en position dominante, donc ne respectant pas cette égalité qui est vraiment au cœur de l'idée libérale d'origine. Le marché, il est ce moyen de faire en sorte que tout le monde puisse investir le terrain économique avec ses propres chances.
Quand
les
vous parlez...
salariés comme les actionnaires.
Quand vous parlez de l'égalité au cœur de l'idée libérale d'origine, c'est une idée tocquevillienne. C'est l'idée que quand on fustige la concurrence, on oublie de dire qu'au principe même de la concurrence, il y avait une égalité, en tout cas une égalité formelle, une égalité juridique. Néanmoins, la condition de possibilité de la concurrence, c'est justement l'acquisition d'une égalité des droits, c'est-à-dire la possibilité de partir du même endroit, en somme. Mais est-ce que ce que vous dites, on peut le comprendre en termes plus abstraits, comme tout simplement l'idée que la liberté, ou un excès de liberté, est liberticide, et qu'en somme un libéralisme bien compris n'est pas la liberté du renard dans le poulailler?
Exactement, je crois qu'on peut comprendre Adam Smith aussi parce qu'il a deux aspects. Il a sa richesse des nations, puis il a la théorie des sentiments moraux dans laquelle il met en avant la sympathie comme moyen de modérer les passions humaines, y compris quand elles s'investissent dans le terrain économique. Et si on parle d'un autre auteur libéral, entre guillemets, qui est Rawls, il met bien en avant le fait qu'il peut y avoir plusieurs modèles d'agencement économico-politique qui permettent d'arriver à de l'équité. Et je cite, parce que c'est intéressant dans le terreau français, lui, il parle d'un état-providence capitaliste, au sens où on laisse le système capitaliste fonctionner, c'est-à-dire mettant la valeur dans la fin du processus économique, c'est-à-dire dans la sphère du capital et non pas dans la sphère du travail. Et puis après, ça impose d'avoir un état-providence qui vient récupérer après coup les dommages causés par l'économie. Et sa théorie de la justice, ça vise à essayer de mettre en avant autre chose, qui est soit la démocratie de propriétaire à l'américaine, soit ce qu'il appelle le social-libéralisme.
Le social-libéralisme dont on a parlé cette semaine et dont on aura parlé, puisque l'émission que vous entendez maintenant, chers auditeurs, a été enregistrée avant les émissions de la semaine sur le libéralisme. Encore un point sur Adam Smith et puis on va revenir sur cette question d'une liberté liberticide avec vous, Alain Laurent. Encore un point sur Adam Smith. C'est très étonnant d'ailleurs que cet homme... Enfin, c'est étonnant. C'est étonnant quand on se fait de tout cela des idées reçues. Si le libéralisme sanctifie, mettons, l'égoïsme individuel ou garantit à chacun le droit de penser à lui-même ou de faire dans la vie le calcul de son intérêt avant de penser à autrui. Mettons, prenons cette idée reçue-là, comment admettre que le théoricien du libéralisme qui est Adam Smith soit par ailleurs le théoricien des sentiments moraux, c'est-à-dire une forme d'optimisme anthropologique qui considère que l'homme étant naturellement, dit Adam Smith, porté à la sympathie pour autrui, la rivalité et l'intérêt, dit-il, ne dépasseront jamais des limites raisonnables.
Je pense que c'est justement parce qu'il a ce terrain moral-là que lui se situe dans une société qui est encore marquée par le fait religieux, qui donc donne des limites à la morale, qu'il peut concevoir que l'intérêt des hommes va être mesuré. Et donc cet intérêt mesuré, eh bien, il peut concevoir qu'on va fonder l'économie sur cet intérêt mesuré parce que personne n'ira à l'excès. Et aujourd'hui, ces remparts ne sont plus là. Et on a une société d'hypercapitalisme financier dont on voit bien que... De par ces règles, et moi j'insiste beaucoup sur les règles comptables qui formalisent un peu la manière dont l'économie se présente à nous, eh bien valorise l'intérêt égoïste à très court terme, et qui n'est pas équivalent à notre intérêt altruiste à moyen terme.
Alain Laurent.
La libre concurrence, elle a essentiellement pour fonction de brider des intérêts personnels qui autrement pourraient déboucher sur n'importe quoi. Autrement dit...
Attendez, la libre concurrence a pour fonction de brider les intérêts personnels.
Oui. Un capitaliste, un entrepreneur, au fond, ce à quoi il rêve, c'est de détenir un monopole, d'être le seul sur le marché. Qu'est-ce qui peut seul l'en empêcher? La concurrence des autres. C'est comme ça que cela fonctionne. Hein. La liberté de la concurrence est une expression qui figure chez tous les grands libéraux. Smith, mais vous pouvez oublier qu'il y en a plein d'autres. Chez Turgot, qui est certainement le grand équivalent français d'Adam Smith, et qui a perçu bien avant Adam Smith un nouveau type d'appréciation de la valeur. Il n'y a pas qu'à valeur leur travail. Pratiquement tous les libéraux abandonnaient cette vieille idée de valeur-travail. La valeur, c'est la valeur subjective pour tous les libéraux, y compris, par exemple, ceux qui travaillent dessus actuellement à partir de Hayek. Deuxièmement, on ne peut pas se tirer d'affaire en se référant, comme ma voisine vient de faire, à Rawls. Rawls n'a rien à voir avec la tradition libérale. C'est justement, c'est un liberal à l'américaine, et selon ses propres termes, dans l'introduction qu'il a fait à l'édition française de la théorie de la justice, il précise que lui, il se situe dans ce qu'on appellera en Europe la social-démocratie. Alors, si la social-démocratie, c'est le libéralisme, on n'y comprend plus rien, je crois qu'il faut arriver
à plus de
rigueur conceptuelle.
Est-ce que vous considérez que le libéralisme, selon vous, Alain Laurent, est statophobe? Par définition, statophobe, en d'autres termes, n'a jamais recours à l'État, et qu'à ce titre, donc effectivement, quelqu'un comme John Rawls, dont je rappelle que la théorie de la justice est un des ouvrages majeurs de philosophie politique du XXe siècle, dont la théorie de la justice, effectivement, reprend, entre autres, la nécessité éventuelle, parfois, de l'État.
Oui.
Est-ce que c'est à cet égard que pour vous il n'appartient pas à la tradition libérale?
Pas du tout. Mais d'ailleurs, il y a par exemple un prix Nobel d'économie assez à gauche, comme Amartya Sen, a qualifié John Rawls de collectiviste. Pour une raison bien simple, c'est que dans l'analyse qu'il fait, que Rawls fait du deuxième principe, c'est le deuxième principe, le principe de différence, il dit mais personne ne mérite ses dons ou talents. C'est quelque chose qui surgit par hasard et la société, par l'intermédiaire de l'État, est en droit de les redistribuer. C'est-à-dire que la propriété de soi, que même quelqu'un comme Marx présuppose qu'il parle de l'aliénation, Rawls la rejette totalement. Donc c'est quelqu'un qui, sur ce plan purement philosophique de la propriété de soi, de la libre disposition de soi-même et du rapport qu'un individu avec ses capacités, ses compétences, ses talents, etc., c'est ça qui le fait sortir de la tradition libérale. Ce qu'on appelle aux États-Unis le classical liberalism, le libéralisme classique, est quelque chose de tout à fait différent. J'en viens à votre question à propos de l'État. L'un des fondamentaux de la tradition libérale, c'est en effet la défiance envers l'État. Ce qui ne veut pas dire que les libéraux, d'ailleurs la plupart des libéraux ne le sont pas, rejettent totalement l'État.
Ça s'appelle l'anarchie, ça, c'est
autre chose. Par exemple, quelqu'un qui est souvent défiguré intellectuellement en France, comme Hayek, accorde une très grande importance à l'État. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Hayek est partisan d'une sorte de filet social minimum. L'État doit veiller non seulement à la sécurité, à l'ordre, etc., mais intervenir et suppléer, je cite presque textuellement Hayek, et suppléer le marché lorsque celui-ci se révèle incapable de fournir tel ou tel bien. C'est du Hayek tout pur. Or, la vision qu'on a de Hayek en France est totalement différente. Donc, il faut le lire pour savoir à quoi s'en tenir. La position, disons, moyenne de pratiquement tous les libéraux, sauf quelques extrémistes du genre anarcho-capitaliste, c'est même pas l'état minimum, c'est l'état limité, la limitation des pouvoirs de l'état sur les citoyens et l'individu. Mais, par exemple, un grand philosophe français, lui aussi de gauche comme Alain, le citoyen contre les pouvoirs, c'est tout simplement ce qu'il dit. Donc la tradition libérale de ce point de vue-là, elle essaie de maintenir l'État à sa juste et nécessaire place, non pas de le chasser et lui donner d'autres fonctions que de vouloir tout organiser la société et de devenir, je cite pratiquement Benjamin Constant, de devenir lui-même un entrepreneur ou un industriel, ou comme le dit Tocqueville, de devenir le tuteur de tous les individus. Tocqueville est extrêmement fort dans la méfiance envers l'État. Il faut relire toute la fin de la démocratie en Amérique.
Et dans le même temps, Alain Laurent, mais ce n'est pas le lieu maintenant d'entreprendre une discussion sur Tocqueville. Tocqueville est également celui qui se méfie de ceux qui se méfient de l'État, au motif que quand on s'absente trop de l'État, on déserte l'espace et l'État devient d'autant plus puissant. Mais ça n'est pas le lieu ici d'entreprendre une conversation sur Tocqueville, malheureusement. En revanche, Valéry Charolles, juste un point quand même sur cette faiblesse conceptuelle que vous reproche votre voisin de gauche, graphiquement. Qu'en est-il ?
Bon, tout d'abord, je dirais que John Rawls a quand même écrit des livres qui s'appellent Le libéralisme politique, par exemple, et donc je pense qu'on peut vraiment le rapprocher de cette tradition dont il se réclame. Surtout, la question qui me semble qu'il faut se poser, c'est est-ce que la situation économique que nous connaissons aujourd'hui est directement issue de la tradition des penseurs libéraux ? Et c'est là où il me semble qu'il y a un écart très puissant entre ces penseurs libéraux qui, je rejoins mon voisin, effectivement situé à ma gauche, qui dit, quand il dit que l'État, c'est pas plus d'État du tout, le libéralisme, mais c'est moins d'État, surtout par rapport à une situation historique, quand le libéralisme économique s'est développé, qui était un État tout puissant. Mais c'est aussi au travers de l'idée de l'économie de marché, la concurrence pour qu'il n'y ait pas de position dominante. Et c'est aussi le fait, moi j'insiste beaucoup là-dessus, que le capital n'est pas la seule valeur qui est importante dans le processus économique, mais aussi le travail. Et c'est là où je pense qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui dans le système capitaliste que nous pratiquons.